une lecture. On va tous se lever pour la lecture de la parole de Dieu. On va lire quelques versets à partir du verset 33. Luc 23, 33, je lis au nom du Seigneur alors que vous êtes en train de chercher ce verset dans la Bible. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Verset 34 de Luc 23, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple, au verset 35, se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Et lui disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre, verset 40, reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Verset 41, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et Jésus lui dit, et il dit à Jésus, « Pardon, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père céleste, nous te bénissons aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus pour ta parole que nous avons. Seigneur, donne-nous de la comprendre et donne-nous de la mettre en pratique dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, oins-nous aujourd'hui alors que nous sommes tous assemblés autour de la table du souvenir, de la table sainte, de cette table, Seigneur, qui nous rappelle ton corps brisé, ton sang versé. Seigneur, parle-nous au travers de ce message. Ce matin, je te demande cela dans le beau et précieux de Jésus. Oins-moi du Saint-Esprit. Oins-nous du Saint-Esprit pour recevoir ta parole et qu'à toi seul revienne toute la louange et toute la gloire. Et tout le monde dit Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés, le Seigneur vous bénisse. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est trois croix sur la colline du Calvaire. Il y avait trois croix sur la colline du Calvaire. Ce n'est pas la première fois qu'il y avait certainement des croix là-bas. Mais ce jour-là, il y avait trois croix qui étaient là plantées sur la colline du Calvaire. Il a été élevé sur un mont, certainement visible de loin. La ville de Jérusalem était une ville qui était un petit peu à l'écart par rapport à Golgotha. Et le fait que ces croix étaient élevées sur ce mont qui est là était certainement visible de loin. Et ces trois croix qui sont là représentent quelque chose d'important pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais que l'on regarde pendant quelques instants, avant de partager la table du Seigneur, ce qu'elles ont signifié à ce moment-là et ce qu'elles doivent signifier pour nous ce matin. La croix est certainement la preuve et la démonstration de l'amour de Dieu vis-à-vis de vous et de moi. Quand vous pensez que Dieu, créateur du ciel et de la terre, Dieu est esprit. C'est ce Jean 4 nous dit que Dieu est esprit et un esprit n'a ni chair ni os. Un esprit n'a pas de hauteur, ni de profondeur, ni de largeur, ni de longueur. Voilà pourquoi un esprit n'a pas de droite ni de gauche. Quand vous pensez que Jésus-Christ est à la droite de Dieu, il ne faut pas penser qu'il y a Dieu qui est là et Jésus à côté de lui. Dieu est esprit. Montrez-moi où est la droite d'un esprit. Si vous ne savez pas maintenant, essayez de figurer tout à l'heure à la maison. Prenez un morceau de papier et commencez à voir un petit peu. Où est la droite d'un esprit? Or, Jésus est à la droite de Dieu. Vous savez ce que ça signifie? Il est la puissance de Dieu. Il est la gloire de Dieu. Il est le bras de l'Éternel. Il est la force de Dieu. Voilà ce que c'est que le bras droit de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est. Donc, à la croix, quand on regarde la croix et quand on pense à ce qui s'est passé là-bas, si c'était simplement le résultat d'une condamnation criminelle, c'est une chose. Mais là, quelqu'un est condamné pour être un criminel parce qu'il a déclaré qu'il était Dieu. Et que le peuple de l'époque, le peuple juif, était tout à fait contraire. Il faut savoir une chose, c'est que les Romains ont certainement été l'outil utilisé pour la crucifixion. Mais le peuple juif, en refusant Jésus-Christ, ont crucifié Jésus-Christ. Maintenant, ce n'est pas eux simplement qui l'ont crucifié, mais le monde entier est coupable envers Jésus-Christ de ce qu'il a souffert sur la croix. Quand je dis le monde entier, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à nous aujourd'hui, nous sommes coupables de ce qui s'est passé à Jésus-Christ. À cause du péché qui est en nous, Jésus-Christ est venu ici sur la terre pour nous sauver. Qui est Jésus ? Yahvé, sauveur. Jéhovah s'est fait sauveur. C'est ce que ça signifie. Quand nous on dit Jésus, c'est que Yahvé, l'Esprit Père éternel, s'est fait sauveur. Voilà pourquoi il s'appelle Jésus. Donc, en Christ, Dieu avait un corps. Il s'est manifesté dans la chair. Il s'est révélé dans ce corps. Il a emmené ce corps qui a été prédestiné depuis la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que le monde n'ait été créé, dans la pensée de Dieu, étant donné qu'il est omniprésent, omniscient et omnipotent, dans sa pensée éternelle, il savait qu'un jour, il y aurait quelque chose à faire concernant le salut des hommes, parce que les hommes étaient dans son plan créateur. Et voilà pourquoi quand il a créé l'homme, Dieu créa l'homme à son image. À quelle image ? À l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne nous ressemble pas, nous lui ressemblons. Quand Dieu a formé l'homme, il l'a formé à son image. Il n'a pas fait un esprit, il a fait un homme. Donc c'était l'image que Dieu se faisait de l'homme et il a fait le premier homme. Dans cette même forme humaine, Dieu est venu pour nous racheter. Aucun homme, aucun animal n'était capable de payer le prix pour les péchés. Donc Dieu lui-même est venu sur la terre, dans un corps de chair, pour nous sauver. Voilà pourquoi la croix est un lieu de jugement. Le jugement de quoi ? De ce que Dieu a dit en Éden. Le jour où tu toucheras à cet arbre, tu mourras. Sachez une chose, que la plupart des gens qui ne réfléchissent pas se disent « Mais pourquoi donc est-ce que Dieu il a mis un arbre dans ce jardin ?» Il n'y en avait pas assez déjà comme ça. Il y avait des avocats qu'on a en Martinique. Ils m'ont ramené un gros avocat de Martinique, c'est très très bon. Il y a des orangers, il y a des bananes de France. Ma sœur a acheté des bananes qui viennent de France hier. Alors je me demande où est-ce qu'on a des bananes en France, mais soi-disant. Alors ça vient certainement de Guadeloupe. Ou peut-être de Corse, qui sait ? Ça, je ne sais pas, tiens, je n'ai même pas pensé à la Corse. Mais enfin, il y avait tous les arbres que vous pouvez imaginer qui étaient là. Pourquoi est-ce que Dieu a mis cet arbre-là ? Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu voulait responsabiliser l'homme. Il lui dit, tu fais tout ce que tu veux là-bas. C'est toi le roi, c'est toi le prince, c'est toi. Tu fais ce que tu veux, c'est toi le patron ici. Sauf une chose, pour que tu saches qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, ça, tu ne touches pas. C'était simple. C'est étonnant que quand quelqu'un nous dit, tu peux tout faire sauf ça, c'est ça qui nous intéresse le plus. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit, touche pas là ? Donc tout le reste est absolument intéressant, palpitant, non. Ce qui est le plus intéressant, c'est, ah, il faut que je touche ça. Et ce qui s'est passé, l'homme a touché, l'homme a péché, et l'homme a été condamné. Et nous, on porte cette condamnation en nous jusqu'à aujourd'hui. Les animaux ont été offerts dès le jardin d'Éden. Un animal a payé pour le péché d'Adam. Dieu lui a fait une couverture pour couvrir sa honte, pécheresse, sa nudité physique, parce qu'à ce moment-là, il a eu la connaissance du bien et du mal. Et de là jusqu'à aujourd'hui, dans la nature humaine, il y a le péché qui est là. Donc Dieu est venu dans une forme humaine, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, Jésus-Christ est venu sur la terre. Pourquoi faire ? Pour nous sauver. Il avait un seul but, un seul. Il n'était pas venu pour profiter des avocats de Martinique. Il n'était pas venu pour manger les bananes de France. Il était venu pour mourir pour vous et pour moi. Il était venu que pour ça et rien d'autre. Il est venu pour mourir. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, avait dit l'ange. Il n'était pas né encore. Il a déjà dit à Marie ce qu'il vient faire. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc il était venu comme un agneau, immolé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde, dans la pensée de Dieu, il savait qu'il va falloir un sacrifice humain pour sauver l'humanité. Mais quel homme allait mourir pour sauver l'humanité ? Si vous, au moins, on donnait notre vie pour sauver quelqu'un, peut-être qu'on peut donner un petit peu de notre sang pour prolonger la vie à quelqu'un. Peut-être que l'on peut donner un rein et aider quelqu'un. Mais on ne peut pas donner la vie éternelle à personne. Mais Jésus-Christ, lui, quand il est venu pour nous sauver pour l'éternité. Donc il est important que l'on s'arrête et que l'on réfléchisse que cette croix qui était un lieu de jugement, c'était en réalité un jugement que Jésus-Christ a subi, mais c'était notre jugement. C'était un jugement que Jésus-Christ a enduré, mais il l'a fait pour vous et pour moi. Dieu prouve son amour, Romains 5:8, envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu, dans sa sainteté, s'est voilé dans un corps humain pour venir nous sauver. Il est nécessaire que l'on pense à la grandeur de ce sacrifice. Ce n'est pas quelque chose qui est bénin. Ce n'est pas quelque chose qui arrive toujours. C'est arrivé une fois dans l'histoire du monde. Quand je dis le monde, je ne parle pas de la terre, je parle de l'univers. Maintenant, l'univers, on connaît très peu. Je devrais dire, l'univers, on ne connaît rien. Mais dans l'histoire de l'univers, c'est la première fois qu'une telle chose est faite. Que le Créateur est venu lui-même sauver sa création. Merci Seigneur pour ton amour. Regardons un petit peu sur le calvaire. Jésus est là, mourant. Il est crucifié entre deux voleurs, un de chaque côté. Vous avez remarqué dans les versets que nous avons lus, que lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus, je ne sais pas pourquoi, mais lui se trouve au centre. Il est flanqué de deux malfrats. Il a été mis au rang des malfaiteurs, nous dit Ésaïe 53. Où est-ce qu'il a été mis au rang des malfaiteurs ? À Golgotha. Il a été au milieu de deux brigands. Et on l'a regardé comme un brigand. Il a été mis au rang de malfaiteur. Il y a trois croix, trois condamnés. Il y a trois personnages totalement différents les uns des autres. Imaginez un peu la scène. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Un mourant pour ou à cause du péché. Un autre mourant dans le péché. Et un autre qui est en train de mourir au péché. L'un qui meurt pour le péché. L'autre qui meurt dans le péché. Et le troisième qui meurt au péché. Deux de ces crucifiés étaient absolument totalement coupables. L'autre était absolument, totalement, entièrement innocent. Deux payaient leur dette à la société. L'autre payait notre dette pour nos péchés. Celui qui est mort pour le péché, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour le péché. Il est mort à cause du péché. Il est mort pour vos péchés et les miens. L'autre brigand est mort dans le péché. Il a été pécheur jusqu'à ce qu'il a expiré son dernier souffle. Tandis que l'autre brigand, à un moment donné, s'est repris. Et il a décidé, alors qu'il était coupable, criminel qu'il était, il avait décidé qu'à ce moment-là, il voulait se séparer du péché. Donc il est en train de mourir, mais il dit non au péché, il meurt au péché. Il veut se séparer du péché alors qu'il est sur la croix. D'où la terminologie que je vous ai donnée. Un est mort pour le péché, l'autre est mort dans le péché, et l'autre qui est en train de mourir au péché. C'est-à-dire quoi qu'il est pécheur, il est en train de se séparer dans ses pensées, dans sa prière, dans sa confession. Il est en train de dire non au péché. Il meurt donc au péché. Il veut se séparer. Est-ce que vous me suivez? Vous avez compris cela? Fort important cela. C'est fort important ça. Regardez un petit peu sur ce calvaire. Et voyez ces deux hommes qui subissent cette condamnation. Le verset 39 nous dit que l'un des malfaiteurs crucifié, injuriait et disait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. » Ce brigand qui est là sur la croix est en train de sombrer dans la dérision totale. Il sait qui est Jésus-Christ. Certainement qu'il sait. La preuve, c'est que son ami le sait. Ou son L'accompagnateur le sait. La personne qui est en train de mourir avec lui sait qui est Jésus. Donc, il devait avoir une certaine notion de qui est Christ. Et dans sa dérision, ce voleur est en train de se moquer de Jésus. N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. L'autre voleur, lui, fait des observations qui sont remarquables. Au verset 40, il reprenait son coéquipier et lui disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Il fait, lui, maintenant, l'état d'une vérité spirituelle profonde. Est-ce que tu ne crains pas Dieu de ce que tu es en train de dire et faire ? Est-ce que tu ne réalises pas que toi, tu es un pécheur et que tu es en train de subir la justice humaine, mais lui n'a rien fait ? Toi qui subis la même condamnation que Jésus-Christ, homme dans la chair, que Jésus-Christ, qui est Dieu manifesté dans la chair, est en train de subir, il a été mis au même rang que nous. Est-ce que tu ne te rends pas compte de ce qui est en train de se passer ? On dirait que d'un seul coup, cet homme sur la croix a comme une révélation de ce que Dieu est en train de faire pour le salut des gens. Et là, dans le verset 41, il reconnaît sa culpabilité. « Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Cet homme sur la croix est en train de confesser sa faute à Dieu. Il réalise que s'il est là, c'est parce qu'il avait fait des graves choses criminelles qui l'ont emmené jusqu'à la croix. La vérité la plus difficile à accepter sur la terre, pour chaque personne, c'est de se repentir. Il y a toujours tendance dans la nature humaine de dire « Ah, mais je ne suis pas aussi mauvais que lui ou elle. » Peu importe si vous n'êtes pas aussi mauvais que lui ou elle, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc peu importe du degré de méchanceté ou de mauvaise chose que vous pouvez avoir dans votre vie, vous êtes mauvais. Et si vous ne vous repentez pas de cette attitude et de vos péchés, vous mourrez dans vos péchés. Vous allez mourir comme ce premier voleur qui est mort en train de crier à Dieu, mais plutôt en l'insultant et en le blasphémant. Voilà pourquoi il est nécessaire de se repentir. Et souvent, nous qui sommes des hommes, dans notre humanité, dans notre peu de connaissances et de profondeur de vue, nous divisons l'humanité. Nous divisons l'humanité par race, par face et par place. Mais Dieu, lui, nous fait grâce. On divise l'humanité par race. On pense que certaines races valent rien. On pense que certaines faces ne sont pas belles. On pense que certaines places, certains endroits, il n'y aura jamais une bénédiction. Il y a des frères que j'ai entendus aux États-Unis qui ont dit qu'en Europe, il n'y aura jamais de réveil. Vous savez quoi ? Merci Seigneur pour sa grâce. Parce que quand je regarde votre face, je m'aperçois que Dieu est plein de grâce. Amen. Et il ne fait pas exception de race. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes ici de toutes les races, de toutes les faces, et nous venons de toutes les places, parce qu'il nous a fait grâce. Oh, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà pourquoi Paul écrit « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Quiconque, toutes les races, toutes les faces, toutes les places, ils reçoivent grâce. Quiconque, c'est nous. C'est nous. Dites avec moi, c'est nous. C'est nous. C'est nous ce quiconque. Quiconque, Romains 10, 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque, c'est nous. Hallelujah, béni soit l'Éternel. Voilà pourquoi dans Jean 3, 14, Jésus nous dit, déclare quelque chose de très puissant. Il dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir venir à la croix. Peu importe notre race, peu importe notre face, peu importe notre place. Mais merci Seigneur pour ta grâce. Oh, hallelujah, merci Seigneur. Amen. Souvenez-vous, peu importe la race, amen, peu importe notre face, et peu importe de où nous venons, peu importe la place, mais Dieu nous fait grâce. Il nous fait grâce parce que nous sommes tous pécheurs. Il n'y en a pas un bon parmi nous. Il nous a sauvés par sa grâce. Oh, béni soit le Seigneur. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas de différence entre le maire d'une ville et la femme de ménage dans la ville. Il n'y a pas de différence pour Dieu entre une personnalité et un simple commun des mortels. Il n'y a pas de différence pour Dieu entre un médecin et un patient. Il n'y a pas de différence pour Dieu entre un policier et un criminel. Tous sont pécheurs. Et tous vont recevoir la mort. Vous n'aimez pas un policier, parce qu'il représente la loi et la justice. Mais pas dans ce rôle-là qui mérite la mort. On doit respecter la police. On doit dire merci Seigneur pour les policiers. Mais en tant qu'homme, c'est un pécheur, il a besoin de Jésus-Christ. Entre parenthèses, est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi on a tant de récidivistes? On met des gens en prison pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, vous penserez qu'en prison, ils prendraient un petit peu de plomb. Enfin, pas un plomb comme ça, mais un petit peu de poids. On les laisse sortir de prison. Ils refont exactement la même chose. Et vous entendez, un tel a tué ceci, un tel a violé là-bas, un tel a fait ceci. Ce sont des récidivistes. Vous savez quoi? Quand vous allez marcher avec la loi humaine, vous aurez toujours des récidivistes. La loi que l'on fait à l'Assemblée nationale pour ces choses-là, le jour où on a enlevé la peine de mort, on a pris la loi entre nos mains. Dans Genèse chapitre 9, celui qui verse du sang doit verser son sang. C'est une loi perpétuelle. Alors maintenant, je ne parle pas pour ou contre la peine de mort. Je dis ce que la Bible dit. Ça n'a pas changé cette loi-là. Celui qui verse le sang, voire son sang. Mais nous, on a changé, on a dit, oh non, non, on va le réhabiliter. Il a mal fait, on va lui pardonner. Il a tué toute une famille, mais enfin, ça va aller, on va lui pardonner. On va le mettre en prison pendant 20 ans. Et qu'est-ce qu'il fait après 20 ans? Il refait la même chose. Pourquoi? Parce que pour réhabiliter quelqu'un, il faut qu'il se repente. Il faut la repentance. Donc dans les prisons, pour que les gens sortent saints d'esprit, il faut qu'ils se repentent, soient baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus et reçoivent le Saint-Esprit. Si nos juges avaient un petit peu de jugeote, ils les enverraient à l'église. Amen. Ils devraient prier pour que les pasteurs viennent prêcher dans les prisons. On ne peut pas réhabiliter un criminel. Il faut que ce criminel se repente de ses péchés. Il faut qu'il demande pardon pour ses péchés. Il faut qu'il réalise qu'il a mal fait. Mais vous savez quoi, la loi ne parle pas de ça. Parce qu'on ne veut pas mélanger la loi et l'église. Mais malheureusement, l'église était ici avant la loi. Dieu était ici avant la loi. Amen. Le Seigneur avait sa loi avant. Et bien sûr, nous allons nous soumettre à la loi tant qu'elle n'est pas contraire à la parole de Dieu. Mais sachez une chose, c'est que tant que la loi du Seigneur sera bafouée, nous aurons de plus en plus d'horreur chez nous. Ça, c'est fermer la parenthèse. Je disais donc qu'il est nécessaire pour nous de réaliser qu'il nous faut nous repentir. Il n'y a personne, policier, maire, personnalité, médecin, patient, criminel, femme de ménage, commun des mortels, peu importe qui vous êtes, qui je suis, qui nous sommes, qui ils sont, il faut, quand on veut s'approcher de Dieu, se repentir de ses péchés. Regardez au calvaire et voyez ce qui se passait là. Vous avez ces deux hommes qui, tous les deux, observez bien une chose. Tous les deux, tout le monde dit tous les deux, demandent à être sauvés. Tous les deux demandent à être sauvés. Tous les deux veulent être sauvés. On lit au verset 37, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Lui criait-il, les rois, les soldats qui se moquaient, et puis les souverains sacrificateurs. Ensuite, les malfaiteurs, verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés, injurié, et lui dit, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Dans le verset 42, souviens-toi de moi. Donc, l'un dit, sauve-nous, l'autre dit, souviens-toi de moi. Tous les deux ont le désir d'être sauvés. Et ça, c'est fort important pour nous aujourd'hui, réaliser que ces deux malfrats qui sont là veulent être sauvés. Le premier a demandé à être sauvé de sa minable situation. Vous savez pourquoi? Il voulait sauver sa peau. C'est tout ce qu'il voulait. Il voulait sauver sa peau. Beaucoup de gens aujourd'hui prient. Ils prient que quand ils ont des ennuis. Beaucoup de gens viennent à l'église quand ils ont des problèmes. Ils viennent demander à Dieu de l'aide quand ils sont vraiment coincés quelque part. Mais sachez une chose, que ce genre de vie ne sauve pas. C'est des gens qui cherchent à sauver leur peau, c'est tout. Ils veulent sauver le moment, ils veulent sauver l'instant. Ils veulent vivre simplement le reste qui leur reste. Mais ils ne sont pas du tout intéressés parce que l'autre brigand était intéressé. Lui avait un autre intérêt. Cet autre brigand, lui, voulait, et il dit ceci au Seigneur. Et regardez un petit peu ce qu'il écrit dans le verset 41. Il dit, c'est justice pour nous, ce que nous recevons, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. Il regarde vers Jésus, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Dans ces quelques mots ici, de deux phrases, il dit des choses très profondes et très puissantes. Celui-ci, quand il regarde le Seigneur, il veut que son âme soit sauvée, et pas sa peau. Il recherche de la part de Jésus un salut de son âme. L'un veut avoir sa peau qui est sauvée, son instant qui est sauvé. Il a une certaine conviction qu'il aimerait bien sauver de là où il est, mais il n'a pas de conviction de ce que Jésus-Christ peut faire pour lui autrement que là. Il sait que Jésus-Christ est capable de faire de certaines choses parce qu'il a certainement entendu parler des miracles. Et il lui dit, n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même. Donc, il a dû entendre parler du Christ. Est-ce que tu n'es pas le Christ? Tu n'es pas celui qui a fait tous ces miracles? D'ailleurs, j'en ai bu des choses. Et puis, quand tu as nourri les foules, j'ai mangé un petit peu de ce pain-là, j'ai mangé du poisson. Bon, c'est pas écrit, ça. C'est moi qui rajoute ça. Donc, quelque part, il savait. Et il demandait à Jésus de lui sauver sa peau. Tandis que l'autre, il avoue son péché. L'autre accepte Christ comme son Seigneur. L'autre anticipe la résurrection. L'autre voit Jésus comme un roi. L'autre regarde Jésus-Christ avec une certaine humiliation. On regarde un petit peu à nouveau les versets. L'autre le reprenait disant, ne crains-tu pas Dieu? La première chose qu'il dit maintenant, est-ce que tu ne réalises pas qu'on est ici dans un moment saint? Est-ce que tu n'as pas peur de Dieu dans ce que tu dis? Est-ce que tu ne vois pas Dieu ici? Toi qui subis la même condamnation que lui qui n'a rien fait. Il réalise qu'il est le Christ et qu'il est en train de payer un prix et un châtiment qu'il ne devait pas. Au verset 42, et Jésus lui dit, et il dit à Jésus, pardon, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Maintenant, il réalise que Jésus-Christ est éternel. Maintenant, il sait qu'ils vont mourir, là, tous les trois vont mourir dans quelques heures, c'est fini. Maintenant, il regarde sur Jésus, il dit, tu te souviens quand tu viendras dans ton règne. Il croyait à la résurrection, cet homme-là. Quelque part, il croyait que Jésus-Christ était là. C'était une erreur, il ne devait pas être là, et quelque chose de miraculeux allait se passer avec lui, quelque chose allait s'opérer, et il parle maintenant prophétiquement, et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ils sont sur la croix en train de mourir. Donc il voit, lui, dans l'éternité, que Jésus viendra dans son règne. Il voit une autre chose, le mot règne, il voit que Jésus est un roi. Il dit, quand tu viendras dans ton règne, il s'adresse maintenant à un roi. Il ne s'adresse pas à un crucifié simplement. Il parle prophétiquement de qui est Jésus. C'est une profonde repentance de cet homme-là. Il se repent, réalise que lui paye sa dette, mais Jésus-Christ, lui, ressuscitera. Et il dit, Seigneur, quand tu ressusciteras, souviens-toi de moi. Hallelujah. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Et à toutes ces confessions-là, remarquez que c'est des versets qu'on lit constamment. Mais regardez un petit peu la profondeur de la déclaration de ces hommes-là. L'un qui se moque de Dieu, l'autre qui réalise qui est à côté de lui sur la croix. Et à la fin de ces déclarations maintenant, Jésus se tourne vers lui et il lui fait une déclaration solennelle. Il dit « en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi. » C'est-à-dire que le Seigneur reçoit la requête de ce brigand et il lui déclare aujourd'hui. Et ce matin, j'aimerais vous dire quelque chose, tous ceux qui sont ici, notamment tous les visiteurs qui sont ici, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, il faut vous repentir. Aujourd'hui, si Jésus-Christ vous parle, il faut vous repentir. N'attendez pas la semaine prochaine, n'attendez pas la prochaine réunion de prière, l'étude biblique, n'attendez pas le moment où est-ce qu'on va se retrouver ensemble pour chanter des cantiques. Mais aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, il faut vous repentir, il faut changer de vie. Il faut venir en disant, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, je veux que tu te souviennes de moi dans ton règne, quand tu viendras dans ton règne. Si vous voulez qu'il se souvienne de vous, il faut vous repentir de vos péchés. Il faut être baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus dans un baptistère comme celui qui est derrière moi. Amen. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Quand Jésus nous a invités à dire, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, c'est-à-dire dans le nom au singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce nom, c'est Jésus. Le jour de la Pentecôte, les disciples ont baptisé dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus. Ils n'ont jamais utilisé une formule trinitaire. Ils n'ont jamais répété simplement l'ordre de Jésus. Ils ont exécuté l'ordre de Jésus et ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Parce que Jésus leur a rappelé dans Luc 24, 47 que la repentance, la rémission des péchés sera prêchée, seront prêchés en son nom, à commencer par Jérusalem. Donc si vous voulez être sûr de votre salut, est-ce que vous pouvez comparer votre baptême du Saint-Esprit, votre repentance à Jérusalem? Jérusalem c'est où? Acte chapitre 2. Il faut aller dans acte 2, il faut que votre salut soit exactement pareil comme ceux des premiers chrétiens. S'il est un petit peu différent, s'il ressemble à l'église catholique romaine, Paul VI, le pape de l'église romaine, a déclaré que tous ceux qui sont baptisés dans la Trinité appartiennent à l'église catholique romaine. Ça inclut tous ceux qui sont baptisés dans la Trinité. Ça inclut tous ceux qui sont baptisés dans la Trinité. Vous savez quoi? Moi, je ne fais pas partie de l'église romaine. Moi, je fais partie de l'église de Jérusalem. Amen. Mon salut vient de ce que Jésus-Christ a enseigné et ce qui a été prêché à Jérusalem. Amen. Moi, je fais partie de l'église catholique de Jérusalem. Amen. Pas celle de Rome, de Jérusalem. Parce que l'église catholique a commencé à Jérusalem. C'est-à-dire l'église universelle, si vous voulez. L'église universelle, ça veut dire catholique. Universelle a commencé à Jérusalem et pas à Rome. Amen. Tous les chemins mènent à Rome, vous dites? Laissez-moi vous dire, un seul chemin mène au ciel. Son nom, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Seigneur Jésus, alors que nous sommes ici debout aujourd'hui, Seigneur, un jour il y avait trois croix. Et sur ces trois croix, Seigneur, deux brigands. Seigneur, ça aurait pu être nous. Et Seigneur Jésus, nous sommes en train de lire ces récits. Nous sommes en train de lire et prêcher, et répéter, et relire et ré-répéter. Et Seigneur Jésus, nous ne voulons pas prendre ça comme un fait accompli. Seigneur, ce matin, je veux te prier, Seigneur, pour que chacun d'entre nous réalisions la souffrance que tu as endurée pour nous. Que nous réalisions, Seigneur, le prix que tu as payé pour nous. Tu es cet agneau immolé pour nous, Seigneur. Ton sang a coulé pour nous. Ton corps a été meurtri, blessé, Seigneur. Comme ce brigand a déclaré, Seigneur, que toi, tu es innocent. Toi, tu n'as rien fait, Seigneur, et tu es mort pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je veux te prier pour toute cette congrégation que nous formons. Chacun d'entre nous parle à nos cœurs, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux que chacun d'entre nous puissions nous repentir. Tout à l'heure, le frère Bataille nous a invités à la repentance, Seigneur. Mais une fois de plus, Seigneur, nous voulons venir au plus profond de nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos iniquités, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos transgressions, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, les choses que nous avons commises. Pardonne-nous les choses que nous ne nous souvenons pas aussi, Seigneur. Pardonne-nous ce que nous avons omis, Seigneur, de faire. Seigneur Jésus, pardonne-nous notre arrogance. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, notre entendement. Quelquefois, nous analysons les choses. Seigneur, tu nous as dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi et obéir ta parole aujourd'hui. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour tous les bien-aimés qui ont entendu la prédication de ces trois croix sur la colline du calvaire. Seigneur Jésus, sur ce mont du calvaire, il était une croix où tu as souffert tant de douleurs. Seigneur Jésus, cette croix, mes chers, Seigneur Jésus, c'est là que tu as racheté mon salut. C'est là que tu as racheté, Seigneur, mon âme, Seigneur. Oh, béni soit l'Éternel. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble pendant quelques instants? Priez à haute voix, priez votre prière. Dites au Seigneur ce qu'il y a dans votre cœur. Dites au Seigneur ce que vous entendez dans votre cœur. Amen. Il vous appelle. Dites, Seigneur, je te suis. Il vous appelle à la repentance. Repentez-vous là où vous êtes. Dites, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je suis un pécheur. Amen. Vous n'êtes pas baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus. Vous avez été baptisé autrement. Soyez baptisé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur vous appelle à revêtir son nom. Il vient chercher un peuple qui porte son nom. Pas ses titres, son nom. Seigneur Jésus, fais ton œuvre aujourd'hui. Fais ton œuvre aujourd'hui, Seigneur. Qu'à toi seul revienne la louange, la gloire. Au nom de Jésus. Quelques heures avant de se retrouver sur la croix, il avait ramené les siens. Vous savez que quand on partage la table du Seigneur, on est une foule de gens ici. On est plein de gens ici. Personne ne sait l'état dans lequel vous êtes vis-à-vis de Dieu. Mais Jésus, quand il a ramené les siens, c'était les siens. Il avait suivi pendant longtemps. C'était un moment de communion, lui, avec eux. Et comme ils étaient en train de célébrer la Pâque, à un moment donné, il a pris du pain, il l'avait rompu, et il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Les disciples ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer 3-4 heures après. Ils n'avaient aucune idée. Mais lui leur dit, « Ça, c'est mon corps qui est rompu pour vous. » Quand vous prenez ça, que vous le mangez, il dit, « Vous mangez mon corps. » Bien sûr, c'était du pain. Mais là, il est en train de leur parler, « Mon corps sera brisé pour vous. » Puis à la fin de la soirée, il prit la coupe. Et puis il dit, « Vous savez quoi, maintenant, cette coupe ici, il semblerait qu'ils aient bu dans la même coupe. » Il dit, « Cette coupe, maintenant celle-ci, ce soir, c'est une coupe de nouvelle alliance. » Pardon, il est en train de parler encore de ce qui va se passer dans 3-4 heures après. Il dit, « C'est la coupe de la nouvelle alliance, en mon sang. » Il dit, « À chaque fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez ma mort. » Les disciples ne comprenaient pas beaucoup. Ils se demandaient de quoi ils parlaient. Néanmoins, il leur a dit ça. Et l'apôtre Paul a repris cette scène dans 1 Corinthiens 11, où est-ce qu'il nous parle, encore une fois. Il dit, « Quand vous, Église, vous vous réunissez, il est nécessaire que vous rentriez dans votre corps et que vous vous jugiez vous-même. » À la lumière de la croix. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à faire cela, que vous vous jugiez vous-même à la lumière de la croix. Le premier jugement est celui-ci, ou plutôt la première question qu'il faut se poser dans ce jugement, c'est « Est-ce que je me suis repenti de mes péchés ?» Si vous êtes repenti de vos péchés, merci Seigneur. La deuxième question, est-ce que je suis baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés ? Est-ce que j'ai obéi au Seigneur ? Est-ce que j'ai revêtu son nom ? C'est oui ou non ? La troisième chose, est-ce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue ? C'est-à-dire, est-ce que Christ habite en moi ? Ce sera oui ou non. Et puis, une autre question, est-ce que je vis chrétiennement ? Est-ce que je vis comme un chrétien ? Est-ce que les gens autour de moi, dans mon quotidien, quand ils me voient, voient un chrétien ? Est-ce que les gens, quand ils me voient, voient une chrétienne ? Est-ce qu'ils voient quelque chose de différent en moi ? Est-ce que je sens chrétien ? Est-ce que je parle chrétien ? Est-ce que j'agis chrétien ? Est-ce que je m'habille chrétiennement ? C'est-à-dire avec modestie ? Je ne parle pas de style maintenant, je parle d'un seul mot qui est biblique, la modestie. Le mot biblique, c'est modestie. Est-ce que je suis modeste dans ce que je fais ? Est-ce qu'on voit mon corps ? Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je suis habillé d'une manière provocante ? Je ne suis pas un chrétien alors. Jésus-Christ n'a provoqué personne. Il n'avait ni éclat, ni beauté qui attirait notre regard, nous dit la Bible. Ni éclat, ni beauté qui attirait notre regard. Il était modeste. Il était habillé comme dans son temps on s'habillait. Il ne suivait pas les styles du moment. Il y avait certainement des styles, il ne les suivait pas. Il était comme tout le monde était. Il n'était pas remarqué par les gens. Voilà l'attitude de chrétien. Il faut se poser la question. Parce que c'est alors que l'on peut communier. C'est alors qu'on peut dire, Seigneur, je réalise que toutes ces choses-là se sont passées. C'est-à-dire que tout ce que tu as enduré, c'est pour moi. La question qu'il faut réellement se poser est très simple. Est-ce que je suis né de nouveau ? J'aimerais que les étudiants IBF qui sont ici au centre évangélique, ceux présents IBF et les anciens IBF, il faut que la terminologie « nouvelle naissance » soit gravée en vous. On ne parle pas assez de la nouvelle naissance. On est né de nouveau. On était pécheur, on ne l'est plus, on est venu à Christ. Dieu a changé ma vie. J'ai fait un demi-tour dans ma vie. j'ai changé de direction. Il y a une nouvelle naissance en moi. Maintenant, ce n'est pas simplement pour IBF, c'est pour tous les chrétiens du centre évangélique. La nouvelle naissance. Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que nous sommes réellement nés de nouveau? Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que quand on vient à la croix, c'est un lieu de jugement. Dans certaines églises, et je ne me moque pas en disant cela, je fais une constatation, on prend la Sainte-Seine tout le temps. Pour certains, ils appellent ça le culte. Quand ils viennent ici dans notre église, ils m'ont dit, « Pasteur, où était le culte ?»« Ben le culte, ben vous êtes au culte là. » Qu'est-ce que ça veut dire culte? Ça veut dire adoration. Pour eux, le culte, c'est prendre la coupe et prendre le pain. Mais ça, c'est pas le culte, ça. Ça, c'est un lieu de jugement, ça. Ça, c'est un lieu où est-ce que je viens me juger? Est-ce que je suis en ordre avec Dieu? Est-ce que je suis un de ces brigands qui veut sauver sa peau? Ou est-ce que je suis celui qui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Seigneur, sauve-moi et pardonne-moi. Vous savez, il y a deux attitudes maintenant. Est-ce que vous voulez sauver votre peau? Ou est-ce que vous voulez être sauvé par Jésus-Christ quand il viendra dans son règne? Si vous voulez sauver votre âme, il va falloir que vous portiez une croix. Il va falloir que vous enduriez la croix. Vous savez que le Seigneur Jésus ne l'a pas décloué? Il ne l'a pas enlevé de la croix. Cet homme est mort sur la croix. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui m'aime et qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Marcher avec Jésus-Christ est une vie de sacrifice. Marcher avec Jésus-Christ n'est pas une vie toujours facile. Mais vous savez quoi? Avec Jésus-Christ, tout ira toujours bien. Avec Jésus-Christ, nous irons jusqu'au bout. Alors que nos yeux sont fermés pendant quelques instants, nous allons prier pour les emblèmes que nous avons ici. Nous avons du pain qui représente le corps du Seigneur. Rompu, brisé, c'est rompu, brisé en quelques morceaux qui sont là. Ça représente le corps du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père céleste, aujourd'hui, Seigneur, je veux te remercier pour ton corps brisé, brisé pour moi. Seigneur, tu as souffert, tu as été flagellé. Seigneur Jésus, on s'est moqué de toi. On a tiré ta barbe. Seigneur Jésus, tu étais ensanglanté, Seigneur. Seigneur, on t'a tiré devant les hommes, les foules, Seigneur, en faisant de toi, Seigneur, la risée du monde. Et Seigneur, tu as enduré tout ça pour moi, pour nous, Seigneur Jésus. Ton corps qui a été meurtri, brisé. Les soldats, Seigneur, se sont moqués de toi. On a craché sur toi. Seigneur, on t'a traîné, Seigneur. À un moment donné, tu ne pouvais plus porter cette croix. Il a fallu que quelqu'un d'autre la porte. Seigneur, tu es arrivé au bout dans l'agonie. Seigneur, tu as transpiré des grumeaux de sang pour moi, Seigneur. Seigneur, ton corps était totalement, à 33 ans, complètement brisé. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Seigneur Jésus, je ne comprends pas pleinement, Seigneur. Je n'ai pas une totale compréhension de tout ça, Seigneur. Pardonne-moi ce que je ne comprends pas, Seigneur. Mais je réalise que ça a coûté, Seigneur, ça a coûté. Ça a coûté, Seigneur Jésus, à un tel point que tu as déclaré sur la croix du calvaire les mots, Seigneur, qui sont des mots sauveurs pour nous. Tout est accompli. Tout est accompli, Seigneur. Tu as tout accompli pour nous aujourd'hui. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir souffert, d'avoir enduré, d'avoir été meurtri, blessé. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Et le Seigneur, j'ai dit, à chaque fois que vous prenez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Ensuite, il prit la coupe et il dit, cette coupe, et bien sûr, nous avons des petits verres, vous savez, mais souvenez-vous, ils étaient à 12, hein, ils n'étaient pas 300. Et il dit, la coupe, il dit, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Et j'aimerais que tous ceux, celles qui s'approchent de la table du Seigneur, vous soyez jugés vous-même. Est-ce que je me suis repenti? Suis-je baptisé? Suis-je rempli du Saint-Esprit? Est-ce que je vis une vie de chrétien, de chrétienne? Vous voyez, si vous répondez non à toutes ces trois questions-là, il faut vous repentir aujourd'hui quand vous entendez la voix du Seigneur. Changez de vie aujourd'hui. mais certainement que vous ne pouvez pas partager la table du Seigneur, parce que alors vous mangeriez et vous seriez en train de boire quelque chose qui serait un jugement contre vous. La Bible dit, voilà pourquoi tant de gens sont malades et beaucoup sont morts, parce qu'ils ont pris la coupe du Seigneur sans avoir discerné le corps du Seigneur. Ils avaient plutôt à l'idée, sauve ma peau, plutôt que sauve mon âme. Et j'aimerais demander au frère Alain Bricout de prier pour cette coupe aujourd'hui. Alléluia. Alors, je vais vous demander encore une fois de faire fort attention. J'aimerais que tous ceux, les frères et sœurs qui sont dans ce groupe-là, vous allez venir vers le frère Bataille ici. Rodrigue va vous conduire. Toutes ces personnes qui sont ici, vous sortez aussi dans l'allée très courte. Donc, essayez de...